Pour ce qui est de ce soir, j'ai pensé traiter du sujet suivant dans le cadre du thème général « Prépare ton avenir ». Le scandale du sang contaminé. Et je crois que nous sommes tous concernés avec ce scandale qui nous a éclaboussé en France, aussi chez vous en Belgique, me semble-t-il. Au Canada, il y a peu de temps, alors que je m'y trouvais, ils étaient en plein scandale sur ce même plan. Le scandale du sang contaminé. Nous introduisons cette conférence par plusieurs lectures. La première au chapitre 7 de Marc. Un texte déjà entendu hier soir en ces termes, du Christ lui-même, nous disant ce qui suit, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie, toutes ces choses mauvaises, dit Jésus, sortent du dedans de l'homme et souillent l'homme. À ces textes, nous en ajoutons un autre. Au chapitre 7 des Romains, où l'apôtre Paul nous fait savoir comment il avait appris à se connaître avec son Dieu. Et je ne sais s'il vous est arrivé d'apprendre à vous connaître comme lui avait appris à se connaître dans ce miroir de la parole de Dieu. Et voici ce que cet homme avait pu dire de lui. Je ne sais s'il vous est arrivé un jour de parler de vous-même dans ces termes que nous allons maintenant entendre. Romains 7, 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, Paul, le grand apôtre, je suis charnel, vendu au péché. Quelle connaissance de lui-même. Car je ne sais pas ce que je fais, et je fais ce que je ne veux pas. Je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne, et maintenant ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir, de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis. Vous est-il arrivé de vous écrier de cette façon-là à votre sujet ? Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Et puis un dernier texte que je citerai de mémoire, se situant au chapitre 9 de la lettre aux Hébreux et au verset 22e. Presque tout dans la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Il n'y a point de pardon. Il est beaucoup question du sang de nos jours, où que ce soit dans le monde. Et ce, pour plusieurs raisons. Il est question du sang, par exemple, en raison des bonds en avant de la révolution biologique, du génie génétique. Il est aussi question du sang en raison du sida. D'où précisément ces fameux scandales un peu partout à propos de sang contaminé. Mais disons que, depuis la plus haute antiquité, le sang a presque toujours été une valeur que l'homme a approchée avec crainte et respect, persuadé qu'il a été que le sang a quelque chose à faire avec la vie. Et en effet, savez-vous que le sang garde toujours ses mystères? Il a été énormément découvert à propos du sang. Mais savez-vous que nous ne savons pas encore tout à son sujet? Le sang, tout un message, en même temps qu'un prodige de création, une merveille, quelque chose d'absolument inouï. Il est bon de temps à autre de s'arrêter quelques instants pour réfléchir aux merveilles de Dieu. Parce qu'il nous semble que simplement le sang aille rester quelques moments devrait nous persuader de l'existence d'une intelligence infinie à son origine. En effet, au plan biologique, il est l'une des substances les plus riches qui soient, dont nous ne saurions nous passer. Nous ne pouvons faire autrement que de vivre avec du sang dans les veines. Encore que nos savants aient réussi à mettre au point un sang de laboratoire, lequel sang de laboratoire ne nous suffirait pas pour tourner, pour vivre jusqu'au bout de la route. Une sorte de sang d'urgence, ce sang de laboratoire, une sorte de sang d'appoint pour parer au plus pressé, surtout lorsque l'organisme a besoin d'oxygène. Mais il ne s'agit pas du tout d'un même sang que celui qui coule dans nos veines. Oui, le sang donc, quelque chose de tout à fait remarquable, la science ne sait pas encore ce qu'est la vie. Mais elle est persuadée qu'elle a quelque chose à faire avec le sang. Ah, le sang, imaginez. Nos meilleurs cerveaux, au plan du génie génétique, de la révolution biologique, n'ont pas réussi à l'heure qu'il est de réaliser un sang ressemblant au nôtre. Alors que ce sang qui coule en vous, en moi, est constamment créé et renouvelé dans le laboratoire ultra perfectionné de notre corps. Il importe que nous nous émerveillons. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure, il nous semble que toute personne normalement faite, en pleine possession de ses facultés intellectuelles et mentales, devrait être persuadée de l'existence d'une intelligence remarquable à l'origine du sang. Et puis ce sang est distribué grâce à une sorte de moteur, là, hein, dans un mécanisme d'automatisme absolument stupéfiant. Heureusement qu'il ne nous a pas été donné d'intervenir dans cet automatisme de notre cœur qui éjecte notre sang jusqu'aux limites de notre corps. Parce que nous pourrions oublier de le faire battre comme cela au cours d'un sommeil très profond, n'est-ce pas ? Et il existe d'autres automatismes, et ce sang est éjecté du cœur au rythme de quelques 100 000 coups par jour. Il importe à présent d'attacher nos ceintures en raison des chiffres qui vont suivre. Ce même sang est distribué à toutes nos cellules grâce à un circuit de distribution fait de quelques 100 000 kilomètres de vaisseaux sanguins. Alors que nous étions avec mon épouse à regarder une série d'émissions sur le sang à la télévision, j'avais dû lui poser la question à Jeanne. Tu as bien entendu comme moi, 100 000 kilomètres de vaisseaux sanguins. Nous n'avons pas 100 000 kilomètres de routes et d'autoroutes dans mon pays, la France. Imaginez, encore moins dans le vôtre. Mais dites-moi, c'est absolument fantastique. Ceci pour irriguer, nourrir nos quelques 30 milliards de cellules. Oui, c'est ainsi qu'on évalue le nombre des cellules au niveau du corps humain, en moyenne. 30 milliards de cellules. Et quand nous savons que tout ceci est sorti d'une seule cellule à l'origine. Ce même sang, tandis qu'il irrigue, oxygène, nourrit nos cellules, il joue aussi les éboueurs. En ramassant les ordures. Et heureusement que lui ne fait jamais la grève. Hein. Il est là, travaillant sans cesse, éliminant nos toxines par les voies que vous savez. Et puis ce même sang aussi joue les gendarmes. En véhiculant les anticorps que notre corps fabrique afin de nous garder d'agressions pouvant nous venir du dedans ou du dehors. Mais c'est fou, le sang. Mais voilà que nous sommes en plein scandale du sang contaminé. Une merveille de création, source de vie, hein, qui maintenant fait trembler en raison du sida. Et puis le sang, sur un plan religieux, est aussi assez intéressant à étudier. Savez-vous que le sang est présent dans toutes les religions du monde ? Le sang est présent dans le judaïsme, il est présent dans le christianisme, il est présent dans l'islam, il est présent dans le bouddhisme. Et jamais tribu au monde n'a été rencontrée sans un culte faisant référence au sang. Il y a certainement des raisons à cela. Et non seulement le sang est très présent dans le livre saint qu'est la Bible, mais le sang est présent jusque dans certaines idéologies matérialistes, athées par exemple, qui prônent la révolution par le sang. Pour ceux qui ont mon âge, c'est-à-dire pour ceux qui sont jeunes, n'est-ce pas ? Et j'en vois ici qui, oui, sont très jeunes. Parce que la jeunesse, en fait, n'est pas une question d'âge, hein. Tenez, je vais poser une question, vous allez voir. Vous êtes jeune ici, mais vous l'êtes vraiment. Oh, la main, levez la main, vous êtes jeune. J'en vois qui trichent, hein. Mais ils ont bien fait de lever la main parce que j'ai aussi levé la mienne. La jeunesse, c'est surtout une question d'état d'esprit, hein. Et pas une question d'âge, vous en avez qui ont tous leurs cheveux, etc., et qui sont jeunes et puis qui ont pris un de ces coups de vieux terribles. Tandis que vous en avez comme moi qui, hein, n'ont plus un poil sur le crâne, si j'ai quelques cheveux encore, mais qui ont gardé toute leur jeunesse là, à ce niveau, dans leur cœur. Mon épouse, il y a peu de temps, était venue vers moi avec une bonne nouvelle, hein. Pour me dire, écoute chérie, là, dans cet exemplaire du Sélection, du Reader Digest, il y a une histoire pour rire qui va te faire plaisir. Et en effet, quelqu'un se désolait en raison de sa calvitie précoce qu'il n'avait certainement pas souhaitée. Alors quelqu'un était venu vers lui pour lui dire, mais écoute, tu sais que l'herbe ne pousse jamais sur un volcan. C'est fou ça, hein ? Donc, s'il y a plus de jeunesse ici, le volcan est là. Et je me souviens de ce cher ami serviteur de Dieu, lui aussi chauve, et qui, un jour, avait tenté de me consoler, de m'encourager, voilà, quelques 30 années. Il était venu vers moi pour me dire, écoute, mon cher, sache que si tes cheveux tombent, ça n'est pas grave du tout. Au contraire, ça devient intéressant. Ah bon, pourquoi? Bien parce que, tu sais, il n'y a que deux sortes d'hommes. Il y a ceux qui ont des cheveux. Et puis les autres, ceux qui sont intelligents. En tout cas, pour ceux qui ont mon âge et plus, et un peu moins, ils se souviennent de ces gardes rouges, toujours à propos du sang, n'est-ce pas, qui défilaient dans les rues de Pékin par millions, avec aux lèvres le slogan suivant, « Sans effusion de sang, il n'y a pas de quoi ?» De révolution qui tienne ou qui vaille, hein, ça n'est pas ce que dit la Bible. La Bible dit quoi? Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Mais ces gardes rouges avaient eu un autre slogan aux lèvres. Et ils avaient cru dans ce slogan. Le sang donc présent jusque au sein de certaines idéologies prônant des révolutions par le sang. Et puis le sang est aussi présent dans certains hymnes nationaux, comme c'est le cas d'une autre, de celui qu'il est convenu d'appeler la Marseillaise, une expression d'ailleurs qui fait problème. Aujourd'hui, vous la connaissez la Marseillaise, hein ? Je ne sais pas si le sang est présent dans votre hymne national. Non, non, vous êtes des gens très paisibles, tout à fait. Tandis que chez nous, le sang y est présent, n'est-ce pas? Nous chantons là, à gorge déployée très souvent dans certaines occasions, et notamment au 14 juillet, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Mais cette expression fait problème maintenant, parce que ceux chez lesquels ce sang impur coulait sont devenus nos amis. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire avec cette expression? Nos autorités réfléchissent à l'heure qu'il est à l'éventualité de la gommer, parce que nos amis allemands nous regardent de travers. Et puis nos amis, tous ces amis avec lesquels nous avons été en guerre, mais dans quelques instants, nous allons vraiment préciser les choses et dire qui porte en lui un sang contaminé. Ah, le message du sang, quelque chose de formidable. Et puis encore, que dit la Bible pour sa part du sang? Ce qui suit, au livre du Lévitique, au chapitre 17, au verset 11, la vie ou l'âme de la chair est dans le sang. Elle dit encore, quelques versets plus loin, la vie de toute chair ou l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. Qu'a-t-elle voulu enseigner par là? Que le sang, c'est donc la vie. Il correspond à la vie physique. Il représente la vie. Et en tant que synonyme de vie, le sang devient tout un symbole, pouvant aller jusqu'à désigner beaucoup plus que ce liquide de couleur rouge et nourricier qui nous coule dans les veines. Ce sang peut aller jusqu'à désigner le tempérament, la personne, la personnalité, et ne plus rien avoir faire avec ce liquide rouge dans nos veines, par exemple. Certainement qu'en Belgique, vous avez l'expression à propos d'un tel qui reste calme en toutes circonstances, celui-là c'est quelqu'un de sang-froid. Il n'a pas le sang plus froid que le nôtre. Si sa température descend au-dessous de 37 et quelques, ça ne va plus. Pourtant, on ose dire, voilà, c'est quelqu'un de sang-froid. Pour son calme en toutes circonstances, son courage, etc. Et pour d'autres, on dira, eh bien, ils ont le sang chaud. Tout à fait le contraire. Hein. Il me semble que ceux qui nous ont chanté là, hein, en italien, on le sent chaud, hein. En Italie, on a le sang chaud, hein. Je crois qu'il y a pas mal d'Italiens là. Je voudrais pas dire les Italiens lever la main parce que vous risqueriez de tous lever la main. Non, pas à ce point-là, je pense. Mais pas plus chaud que le nôtre. Non. Ceci pour parler de leur tempérament. Et en effet, les Espagnols, les Italiens, et puis dans le midi de la France, vous nous connaissez, on a le sang chaud. Les Méditerranéens, j'en suis un. Alors on a réellement le sang chaud. Pour parler de notre tempérament. Nous avons même à Paris une autre expression à propos de sang toujours. Celui-là, il n'a pas de sang dans les veines. Heureusement qu'il en a. Parce qu'il ne pourrait pas tenir le coup. Et d'ajouter, vous l'avez cette expression ? Oui. Pour dire qu'il n'a pas de personnalité, qu'en fait, sa personnalité est délavée, n'est-ce pas ? Il n'a pas de caractère. Il n'a pas de sang dans les veines. Et d'ajouter à Paris, il a du jus de navet. À la place, ne dites surtout pas cela à un Parisien. Vous le vexeriez. Hein. Mais heureusement qu'il a du sang dans les veines. On ne peut pas vivre sans ce liquide dans nos veines. Ça n'est pas possible. Et voilà le sang nous parlant de tout autre chose que, justement, de ce liquide rouge dont nous avons tout à l'heure parlé, qui est un prodige de création. Nous lisons au livre de la Genèse, aussitôt le meurtre d'Abel consommé. Cette parole de Dieu disant à Caïn, le sang de ton frère Abel a crié de la terre jusqu'à moi. Voilà maintenant le sang qui parle. Mais quand le sang est ainsi personnalisé, alors il devient l'âme. Voilà pourquoi la Bible dit que l'âme ou la vie de la chair, c'est son sang qui est en elle. Et le sang est très souvent personnalisé. Ne dit-on pas en Belgique, comme c'est le cas dans notre pays, et c'est même vrai au Québec où je me situais ces jours passés, à propos de quelqu'un qui ment comme il respire. Ça existe en Belgique, ça. Oui, alors il faudrait s'en méfier, hein. À propos de quelqu'un qui ment comme il respire, nous en avons en France et un peu partout dans le monde, ne dit-on pas par exemple, celui-là, il a ça dans quoi ? Dans le sang. Alors prenez un peu de son sang, portez-le en laboratoire et demandez, là au laboratoire d'analyse médicale, la recherche, j'allais dire, de la dose du mensonge dans ce sang-là. Mais vous les embarrasseriez, il a pourtant ça dans le sang. Mais il n'y a pas que le mensonge que nous pouvons avoir dans le sang. Il y a toutes ces passions qui nous coulent dans nos veines. Et tout à l'heure, le Seigneur nous a dit justement ce qu'il en est de chacun d'entre nous à propos de ce qui coule en nous. Le Seigneur a dit ce qui coule dans nos veines, les mauvaises pensées. Et il a donné là une sorte de descriptif du péché. Les mauvaises pensées nous coulent dans les veines. Ça colle à nous comme notre peau. Nous ne pouvons pas nous en défaire ni nous en guérir. Les adultères, a dit Jésus. Les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses nous coulent au-dedans. Et c'est vrai pour tous. En même temps que pour chacun, chacune en particulier. Et c'est le Christ qui dit vrai. Mais alors, il ne s'agit plus, quand on parle de ces choses, du sang physique, c'est-à-dire de ce sang fait de globules rouges, de globules blancs, de plaquettes, etc., et qui garde encore pas mal de mystères. Ce sang devient alors la vie profonde. Il devient l'être fondamental. Il devient l'âme. Et en parlant de cette façon-là, le Seigneur a voulu nous dire que nous sommes tous corrompus au-dedans, au niveau de notre vie profonde, si nous voulions être honnêtes avec nous-mêmes, quelques instants, à la lumière des textes du Christ, nous serions obligés d'accepter ce diagnostic comme nous le disions hier. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul s'est exprimé de cette façon-là. Je suis vendu au péché. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Vous est-il arrivé réellement d'apprendre à vous connaître de cette façon-là? Et le Seigneur a voulu ces rencontres pour que nous apprenions à nous connaître tel qu'il nous connaît, lui, chacun, chacune. La Bible dit que très souvent, notre orgueil, et nous sommes tous orgueilleux, personne ne fait exception. La Bible dit que notre orgueil est une sorte de miroir déformant, nous renvoyant de nous-mêmes une image qui n'est pas exacte et qui nous trompe sur nous-mêmes. N'est-il pas vrai que nous avons, la plupart du temps, de nous-mêmes, une opinion qui se tient, hein? Et que si le monde ne va pas, ça n'est jamais notre faute, c'est toujours la faute de ceux qui sont autour de nous. C'est bien là la preuve que nous ne nous connaissons pas. Ah, je me souviens lorsque Alain Chouaquier a été approché par ce serviteur de Dieu qu'il a évangélisé du nom de Ralph Chalis. Peut-être l'avez-vous entendu ou connu, c'est cet homme qui m'a conduit au Seigneur, voilà 43 ans de cela. Je n'avais pas du tout accepté son message dans un premier temps. Pourquoi? Parce qu'on nous disait bien dans le quartier, un papa dans l'enseignement, des frères et sœurs aux études, moi-même aux études, on jouissait d'une bonne réputation. Et voilà, quelqu'un venant vers moi pour me dire, tu sais, le Seigneur t'aime, mais il te dit quand même que tu es un pauvre type. Moi, je l'avais mal encaissé parce qu'à l'époque, j'avais en plus tous mes cheveux et toutes mes dents. De bonnes études en sciences politiques, sportif de surcroît. Je vais vous emboucher un coin. Sélectionné dans l'équipe de France de volleyball junior. J'en vois qui baillent. Mais je vous assure que c'est vrai. Mais le Seigneur s'est servi de cet homme venu faire du sport avec nous pour nous atteindre. Et savez-vous que tous ces joueurs qui avaient été sélectionnés avec moi dans cette équipe de France de volleyball junior sont à présent serviteurs de Dieu. Ils prêchent l'évangile dans le monde. C'est aussi mon cas. Ils baptisent des églises. Ils ont été rencontrés par cet homme sur un terrain de volleyball. C'est quand même quelque chose de remarquable. Et il avait fallu du temps à celui qui vous parle pour accepter le message du Seigneur. Mais il avait bien fallu un soir que je reconnaisse que c'était lui qui disait vrai, à mon sujet, et non pas tout notre entourage qui nous applaudissait, nous reconnaissait, pour être des gens bien dans le quartier, non. Vous savez, les gens, lorsqu'on les considère de loin, sont toujours des gens bien. Approchez-les d'un peu plus près. Vous risqueriez d'éternuer. Mais c'est fou. Mais c'est cela. Et puis, nous ne nous connaissons pas tels que nous sommes. La Bible dit que Dieu nous connaît. Oui, il m'est arrivé de crier à mon sujet comme Paul, misérable que je suis. Mais heureusement que j'eus en face de moi ce Dieu qui est l'amour dans sa personne et qui avait pu m'accueillir tel que j'étais. Pécheur perdu, avec dans sa vie profonde une corruption, 18 ans. Et nous en sommes tous là, mes amis. Le Seigneur ne veut pas que nous nous bercions d'illusions. De telle manière que nous sommes tous porteurs d'un sang contaminé par le péché. C'est-à-dire d'une existence qui a été souillée par la révolte, la désobéissance. La Bible enseigne que nos premiers parents, comment se sont-ils appelés ? Adam et Ève, hein ? Et non pas Chita, hein ? Non. La guenon de Tarzan, ça n'existe pas. Hein ? L'homme ne descend pas du singe. La Bible affirme que l'homme et la femme ont été créés par Dieu à partir d'actes de création qui se sont nettement distingués de la création du règne animal. Et même si l'homme a été fait au sixième jour de la création, comme ce fut le cas pour les animaux, il a été quand même fait homme et femme en image de Dieu. La Bible dit que nous sommes tous issus de ses premiers parents, d'Adam et d'Ève, lesquels, dans un premier temps, avaient eu dans leurs veines, c'est-à-dire dans leur vie profonde, hein, un sang innocent. Mais qu'en raison, par la suite, d'un acte de désobéissance délibérée, le péché est entré dans le monde. Il est entré dans leur vie. Et à partir de là, leur sang en avait été empoisonné, contaminé. Et nous sommes tous héritiers de leur sang. La Bible dit que Dieu a voulu, en acte 17-26, que tous les hommes, issus d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, de telle manière que le sang qui coule en vous, qui coule en moi, nous l'avons hérité d'Adam et Ève, et leur sang avait été contaminé, empoisonné par la désobéissance et par le péché. Et c'est ce sang qui a transmis cette hérédité du péché d'une génération à l'autre. Et c'est aussi pour cette raison-là que précisément, nous n'en pouvons plus souvent de vivre ce que nous vivons sur cette terre, parce que notre sang a été contaminé par le péché. Ah, s'il y a tout ce que le Seigneur nous a dit tout à l'heure et qui coule dans nos veines, il y a aussi la guerre qui coule dans nos veines. La Bible le dit au psaume 55 et au verset 22. Elle dit que la guerre est dans le cœur de l'homme. Voilà pourquoi nos problèmes en Yougoslavie, en ex-Yougoslavie, voilà pourquoi nos problèmes au Rwanda et dans tant d'autres pays du monde, la guerre est dans le cœur de l'homme. Et c'est tellement vrai que cette même guerre peut revêtir d'autres formes et se retrouver, par exemple, dans nos foyers, opposant, dressant les conjoints l'un contre l'autre, les guerres domestiques. Oh, je ne veux pas peut-être réveiller chez certains des souvenirs pénibles. Mais ces guerres domestiques qui finissent lamentablement dans le divorce. Vous êtes peut-être une personne divorcée. Ne vous en voyez pas juger, surtout pas. Ni par le Seigneur, encore moins par nous. Parce que le Seigneur a dit que son Père l'avait envoyé vers nous dans un premier temps, non pas pour nous juger, mais pour nous sauver. De telle manière que le Seigneur vous aime, même si vous êtes une personne divorcée. Et ce soir, il voudrait vous attirer à lui tellement il vous aime pour vous sauver. Nous nous livrons bataille, quelque chose d'inouï de par le monde. La guerre coule dans nos veines. Mais qui peut nous guérir de tout ce qui coule dans nos veines ? Est-ce que ce soir, nous sommes prêts à accepter ce que la Bible dit ? À notre endroit, à notre sujet, à tous. Et c'est la Bible qui dit la vérité. Par exemple, vous avez été parents, père, mère, vous avez eu les plus beaux enfants du monde. Vous levez la main. Père, mère, levez la main. Oh, mais oui, hein. Est-ce que ce sont de petits saints que vous avez mis au monde ? Oui ? Je ne vois personne opiner du bonnet. Je vois tout à fait le contraire. Mais mes amis, est-ce que nous avons dû apprendre à nos enfants à mentir? C'est fou, hein? Nous ne leur avons jamais appris à mentir. Nous avons tenté le contraire. Nous avons tout fait pour qu'ils ne nous mentent jamais. Est-ce que vous avez réussi? Si oui, alors venez vers moi tout à l'heure pour me dire votre truc. Parce qu'alors avec Jeanne, on a complètement échoué. Ah, je me souviens, mais c'est fou. Comment le petit enfant réussit-il à mentir, mais très jeune? Alors qu'il est encore bébé là, et qu'il baragouine n'importe quoi, il vous sort des monstruosités, des choses terribles. Ça coule en lui. Oh, je me souviens, lorsque nos filles étaient petites, nous avons eu de jolies filles, certains ici les ont connues, hein. C'est tellement vrai qu'elles ressemblent à leur papa, n'est-ce pas? C'est fou. Un jour, nous avons dû mettre un peu d'ordre parce que notre seconde, Elisabeth, de ses tendres quenottes, oui, de ses premières dents qu'avec mon épouse nous avons dû attendre, j'allais dire presque religieusement, hein, à quand ses premières quenottes? Et nous avons même aidé ses premières dents à venir avec des morceaux de sucre. Hein. Enfin, vous en savez quelque chose, très certainement. Et puis une fois ces dents arrivées que nous avions attendues avec impatience, elle avait mordu Myriam, sa sœur aînée de 2 ans, au bras de ses tendres quenottes. Alors Myriam était venue vers nous, le bras douloureux, Elisabeth m'a mordu. Nous avions dû mettre de l'ordre dans ces choses et puis avec mon épouse nous étions posé la question, mais qui lui a appris à mordre? Parce qu'à l'école, à l'époque, elle n'allait pas à l'école, même pas, pas même à la maternelle. Elle était toujours avec nous, tout le temps, toujours. Les seules personnes sur lesquelles elle aurait pu copier ce geste, c'était mon épouse et moi, mais je puis vous dire qu'avec Jeanne, on ne se mord jamais. C'est bien la preuve que le péché habite le cœur de l'enfant. La Bible dit, comment d'un être souillé sortira-t-il un être pur? Et David, de s'être écrié au psaume 51, ma mère m'a conçu dans le péché. Elle m'a enfanté dans l'iniquité. Et le péché, nous le disions hier, est le plus grand problème de la race humaine. C'est lui qui est le responsable de tout ce qui nous arrive. Et le péché n'était pas dans les desseins de Dieu à l'origine. Il est intervenu comme un très sérieux accident de parcours pour faire de nous des êtres porteurs d'un sang contaminé par le péché. Mais quand quelqu'un est ainsi atteint d'une maladie incurable au plan physique, par exemple, on se met en quête d'un sang saint, S-A-I-N, pour lui venir en aide. D'où précisément ces scandales du sang contaminé, parce que ces sangs qui ont été diffusés, distribués, étaient porteurs du virus du sida. Mais couramment, c'est d'un sang saint dont on se met en quête pour venir en aide aux grands malades. Ainsi en est-il au plan moral et spirituel. Nous sommes, dit la Bible, tous de grands malades, mais nous refusons de l'accepter. Nous sommes tous malades du péché. Notre chance est que Dieu nous aime. La Bible affirme que Dieu abhorre littéralement le péché. Ah non, il ne l'aime pas, surtout pas. Mais il aime le pécheur. Et cela représente toute notre chance d'être sauvés. Alors Dieu lui-même, dans son intelligence infinie, dans sa sagesse, en même temps que dans son amour, a mis au point un plan de rédemption pour l'homme afin de le tirer d'affaire et de le guérir de la plus horrible des pestes qui soit, le péché. Il n'y a pas de peste aussi horrible que le péché. Et si nous commencions en tant qu'humanité de trembler devant le péché comme nous tremblons devant le sida, il y aurait un immense espoir pour les hommes. En Belgique, il y a quelques années, le Seigneur me donnait de conduire à lui un sidéen. Et cet homme ne s'était pas révélé de cette façon-là. C'est après être venu au Christ qu'il m'avait dit « Je suis un sidéen ». Je l'avais regardé pour lui dire « Mais écoutez, monsieur, vous ne donnez pas du tout l'impression d'être un grand malade. » Et il m'avait expliqué « Mais vous savez qu'il y a deux sortes de sidéens. Il y a ceux qu'on appelle les séropositifs, dont je suis, qui peuvent donner le sentiment d'être en pleine forme, mais il reste qu'ils ont attrapé le virus de la mort. Et puis il y a ceux qui sont envahis par la maladie et qui se meurent sur des lits d'hôpitaux. Et tandis qu'il m'expliquait cela, dans ma petite tête, j'avais pu faire un parallèle entre le sida et le péché. Parce que vous en avez qui, comme les séropositifs, vous donnent l'impression d'être, j'allais dire, tellement bien. Parce que, caché en quelque sorte derrière des dehors tout à fait resplendissants, à la limite impressionnants, oui, tellement ils sont habillés d'honorabilité, de respectabilité, de religiosité, vous leur donneriez, comme on dit, le bon Dieu sans confession. Tellement ils sont bien, ces gens-là. La Bible dit que ceux-là aussi ont attrapé le virus du péché. Tous sont péchés, dit-elle, et sont privés de la gloire de Dieu. Et puis vous avez les autres aussi qui peuvent porter sur leur visage, en même temps que dans leur comportement, qu'ils sont réellement des pécheurs. Ceci existe aussi parmi les humains en parlant du péché. Et mes amis, comme le sida, le péché est un mal incurable. La Bible dit que l'homme ne peut rien pour son péché. La Bible dit que la science ne peut rien, la philosophie non plus, la religion non plus. Et elle dit que l'âme qui pèche, c'est celle qui mourra. Alors nous voilà tous condamnés par le péché. Et ce, de manière incontournable, où que nous allions sur cette terre, tous les hommes en sont là. La Bible affirmant qu'il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pèche jamais. Oh, ce péché qui nous coule dans les veines. Qui pourra nous en guérir? Mais nous disions tout à l'heure que pour le grand malade, on se met en quête d'un sang saint, S-A-I-N, pour une transfusion éventuelle, afin de lui venir en aide. Pour le péché, il faut que nous nous mettions en quête d'un sang saint, lui aussi, mais cette fois, S-A-I-N-T. C'est-à-dire d'un sang pur, d'un sang juste, d'un sang exempt de toute souillure. Mais où est-il, celui-là, porteur justement d'un sang saint, S-A-I-N-T ? Je cours le monde, je n'en ai jamais rencontré. Il n'est certainement pas en Belgique, ni en France. Et nulle part ailleurs, tous sont péchés. Alors où est-il ? Voilà pourquoi le Christ est venu il y a 2000 ans. Il a été le seul homme à avoir porté un sang pur, un sang saint, un sang juste, un sang propre. Et c'est pour toi qu'il est venu. C'est pour moi qu'il est venu, afin que puisse s'établir entre lui et nous, mais sur un plan spirituel et moral, une sorte de transfusion sanguine, la Bible disant que le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous purifie de tout péché. Et voilà la réponse à ces êtres que nous sommes et qui sont tous porteurs d'un sang empoisonné. Voilà pourquoi le Christ est venu. Il est venu pour nous donner son sang, c'est-à-dire pour nous donner sa vie pure, sa vie propre. Et ce fut un cadeau du ciel à la terre, un cadeau du Père des cieux aux pécheurs perdus dans sa corruption. Mais encore faut-il accepter pour nous ce sang précieux de Jésus-Christ. La Bible dit que le sang de Jésus, de Jésus-Christ, purifie nos consciences des œuvres mortes du péché, afin que nous servions le Dieu vivant. Et tout l'espoir est précisément dans le Christ et dans cette vie qu'il a offerte pour nos péchés sur la croix du calvaire. La Bible dit qu'il nous faut absolument plaider ce sang pour nous, nous mettre à l'abri de ce sang, lequel nous purifie de tout péché, lequel nous délivre de tout péché. Et ce par amour, la Bible dit, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Quelle joie, quelle chance pour le pécheur aujourd'hui dans la région du centre. Pour le pécheur, où qu'il se situe au monde, sous quelques cieux que ce soit, la réponse, l'espoir, le sang de Christ. Sinon, c'est sans issue. Vous n'arriverez jamais à vous guérir de vos péchés par vos bonnes œuvres. Ça n'est pas possible. La Bible dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ça n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et si nous pouvions nous sauver par nos œuvres, jamais le Christ ne serait venu pour nous donner son propre sang, pour nous donner sa vie. La croix a manifesté que notre péché personnel est grave aux yeux de Dieu. Il s'agit là, je le répète, d'une peste épouvantable dont nous pouvons guérir grâce au sang de Christ. Et si ce soir vous vouliez plaider ce sang, vous en remettre à la croix pour l'expiation de vos péchés. La Bible dit que le Christ a pris ton péché personnel, le mien personnel, comme si nos péchés personnels avaient été les siens. Et il a dû mourir à cause de nos péchés, dans des conditions absolument épouvantables. Pendu qu'il a été, entre ciel et terre, tout couvert de poussière, de sueur, de sang. Il expiait ton péché, parce que tu ne pouvais rien pour ton péché. Il expiait le mien. Il portait tout ce qui nous charge, nous écrase, nous tue, allant jusqu'à porter même l'enfer que nous méritions chacun, par cet abandon qu'il avait dû souffrir de la part de son Père. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Oh, le message de la croix, un message d'amour, mais quel message ! Il nous faut ce soir accepter ce message de l'amour de Christ sur la croix. Mourant à notre place pour nos péchés, mourant pour nous donner son sang. Oh, ce sang juste, pur, propre, lui seul a été en possession de ce sang, saint et sainte. Voilà pourquoi seul il peut quelque chose pour toi. Maintenant, alors que faire pour terminer ? Eh bien, il faut dire au Christ tel que nous sommes, ce que j'ai dû faire pour lui dire, Seigneur, aie pitié du pécheur que je suis. Je me reconnais pécheur devant toi. La Bible dit que si on ne veut pas se reconnaître pécheur, il n'y a pas de salut possible pour nous. La Bible dit que le ciel sera rempli de pécheurs sauvés par grâce. L'enfer, lui, aussi sera rempli de pécheurs, mais de pécheurs qui auront refusé la grâce, en même temps que le sang de Christ. Ne prenons pas ce redoutable risque de refuser le sang de Christ qui a été donné pour chacun à la croix du calvaire pour la purification de nos péchés. Et j'aime affirmer ce qui suit, le ciel est pour des pécheurs sauvés. Et le Seigneur veut vous sauver quand ? Ce soir. Pas demain peut-être ou plus tard, non, ce soir. La Bible dit, c'est maintenant le moment favorable. Il suffit donc de se reconnaître pécheur et puis de venir au Christ tel que nous sommes. De venir à la croix. D'accepter que celui qui est mort sur la croix est mort pour soi, personnellement. Qu'il a porté notre péché. Qu'il en a réglé définitivement la question. Et qu'il est par le fait la porte du salut. Jésus a dit, celui qui entre par moi sera sauvé. Il faut venir. Il est le sauveur. Il t'aime. Il t'aime comme personne ne t'aime ici-bas. Ah, quand je l'ai découvert. Voilà pourquoi j'ose plutôt dire que mon épouse est mon deuxième amour. Et elle l'accepte souvent, elle est dans l'auditoire, et elle ne me fait pas les gros yeux. Parce qu'elle sait que mon premier amour, c'est le Seigneur. Mais je l'aime dans le Seigneur. Mais quelle joie de se savoir aimé éperdument par le Christ, lequel veut notre salut. Toute la question est de savoir si le pécheur, lui, veut être sauvé. Est-ce que vous le voulez ce soir ? Je vous appelle à venir au Christ pour vous placer à l'abri de son sang. Je vous invite à plaider ce sang pour vous, pour la purification de vos péchés maintenant, pour la guérison de votre péché maintenant. C'est une chance que nous puissions encore prêcher ce message dans ce lieu ce soir, en Belgique. Alors n'hésitons plus. Venons au Christ tel que nous sommes. Et il nous accueille ce soir, c'est sa promesse. Savez-vous ce qu'il a dit dans l'Évangile ? Je ne mets point dehors celui qui vient à moi. Alors il faut venir tel que nous sommes. Je vous y invite.